vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
La loi de programmation militaire 2019-2025 avait une vocation claire. Réparer nos armées. Leur redonner le souffle, les moyens. Sortir de la logique de pénurie et retrouver des leviers d'action. Grâce à votre travail collectif et la vigilance de vos chefs, cette entreprise progresse. Vous faites que tous ces engagements ont été respectés à l'euro. Mais ce travail doit se poursuivre. J'ai pu me rendre compte, au gré de mes nombreux déplacements dans les forces, de la différence que ce travail de fond a pu faire et créer, concrètement et moralement aussi. Cet effort de remontée de nos armées, le nouveau projet de loi de programmation militaire entend le poursuivre et l'amplifier. Et au fond, après avoir réparé les armées, nous allons les transformer. Il faut gagner le temps qui nous sépare du conflit de demain. Oui, la nation se doit de transformer ses armées en conservant naturellement ses invariants stratégiques, en s'appuyant sur l'excellence de ses militaires et leur dévouement. Mais il nous faut aussi, en tant que nation, nous transformer nous-mêmes, être prêts à des guerres plus brutales, plus nombreuses et ambiguës à la fois, comme je viens de l'évoquer. C'est cette haute ambition que porte la loi de programmation militaire.
Et bienvenue en direct dans cette émission du mercredi 21 janvier 2026. Comme vous l'avez reconnu, on vient d'entendre Emmanuel Macron, donc, qui intervenait le 27 novembre dernier donc, à Vars, dans le Vercors. Donc, c'est au lieu de la résistance. Et il présentait ce nouveau service national volontaire. Donc, l'accueil, c'est l'idée de ce nouveau service national volontaire, c'est l'accueil de 3000 jeunes volontaires entre 18 et 25 ans dès l'été 2026. Pour une durée totale de 10 mois rémunérés, avec un objectif de 10 000 par an en 2030 et 50 000 par an en 2035. Et pour parler aujourd'hui de ce service national volontaire, on est en compagnie d'Irène.
Bonjour.
Bienvenue dans notre émission. Tu es membre du collectif contre la militarisation de la jeunesse. Peut-être te présenter et présenter le collectif ?
Ouais, alors déjà, je tenais à dire vraiment, c'était un peu rude de démarrer avec Macron, hein, franchement. D'accord. Genre, total soutien aux auditrices
qui ça ont subi ça.
Heureusement, c'était court. du coup, on est. Voilà, moi, je fais partie du collectif contre la militarisation de la jeunesse et de l'école. Et de la société en général, mais bon, on est beaucoup axé jeunesse. En fait, contre le SNU d'Île-de-France, le SNU, c'était le Service National Universel qui a été un dispositif mis en place en 2019, justement sous Macron, et qui finalement a été abandonné. Donc on a changé de nom, mais on n'a pas changé d'objectif, c'est-à-dire qu'on est toujours contre la militarisation de la jeunesse, sachant que là, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur qui a été mis...
C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, quoi.
Ouais, il n'était pas vraiment mort, malheureusement. Et il n'est pas aussi beau qu'un phénix, peut-être. Mmh. C'est un peu un ogre, plutôt, je dirais, ouais. Qui dévore ses enfants. Mmh. Et du coup,
peut-être un petit bilan, peut-être, du SNU. Qu'est-ce que... Ça a coûté cher en même temps, cette histoire, quand même, un
oui,
peu.
Oui, j'ai l'impression que ça a coûté pas mal d'argent. Et surtout, alors en fait, ça n'a pas eu vraiment de ce qu'on a un peu observé. Et puis nous, on a fait beaucoup de veille médiatique. Et puis on était un peu en lien aussi avec soit des établissements scolaires, soit des parents qui nous contactaient pour nous dire comment on fait pour que nos enfants aillent pas au SNU. Ça a été surtout un peu un gros fiasco. Le projet qui était porté notamment par Gabriel Attal, qui a été ministre de l'Éducation, Premier ministre, et qui voulait vraiment mettre au pas la jeunesse. Ouais. Il a même fait des vidéos YouTube avec des influenceurs gros bras, tout ça et tout. Et c'était aussi le projet de Sarah El Haïry, qui est aussi, là je ne sais plus ce qu'elle est, mais à un moment elle était genre secrétaire à la jeunesse... Et voilà, et un peu leur logique, c'est, nous, de ce qu'on en a observé, c'était de un peu changer de pédagogie concernant l'encadrement des jeunes. Et y avait un peu le truc de faire passer ces stages SNU pour des colos. Qui en général tournait vraiment au fiasco parce que encadrer des jeunes dans un cadre qui n'est pas un cadre scolaire, ça s'improvise pas. Et en fait, quand on fait des colos, souvent on passe du temps à dire aux jeunes oui, alors mettez votre crème solaire, prenez une bouteille d'eau, prenez un chapeau, prenez. Bon, voilà. Et ça, ils ne savaient pas le faire parce que c'était pas leur boulot. Et eux, ils sont à la dure. Il y avait des militaires qui encadraient et puis aussi des gens qui étaient un peu embauchés à l'arrache. Et voilà, du coup, ça a vraiment mené beaucoup à des accidents de groupes de jeunes qui ont eu des insolations, qui ont été hospitalisés d'urgence, qui faisaient des malaises le matin quand il y avait des levées de drapeaux parce qu'ils n'avaient pas petit-déj ou parce qu'il faisait trop chaud. Et il y a eu aussi des cas de séjour où il y a eu des agressions sexuelles, pas mal d'agressions racistes aussi, la discrimination. Voilà. Du coup, en vrai, c'était pas hyper... bien pensé, c'était pas hyper adapté. Et puis, je veux dire, quand bien même ça aurait été bien fait. Observer, c'est que ce dispositif, il est apparu donc juste après un gros mouvement en 2016. Il y a eu d'abord la loi travail, les luttes contre la loi travail. Il y a eu, en vrai, les gilets jaunes aussi. Mmh. Et on sent que les projets souvent de militarisation de la jeunesse, ils arrivent quand même souvent après des grands mouvements sociaux où il y a eu des lycéens, des lycéennes, des étudiantes dans la rue et où il y a vraiment cette espèce de notion de vouloir reprendre... leur engagement, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on dit. Hein,
Bien sûr.
Et c'est de transformer l'engagement des jeunes en disant non, mais il faut s'engager pour la patrie, pour la nation. Et il y a vraiment un travail de propagande. Et vraiment, le SNU, il arrivait dans cette volonté de
mettre la jeunesse au pas. Quoi,
mettre la jeunesse au pas. Mmh. Concrètement, c'est ça, ouais.
Ouais. Non, c'est ça aussi qui est intéressant dans la démarche du contre-SNU. C'est vraiment, moi je me souviens, j'avais assisté à une présentation avec une très grande carte. D'ailleurs, je pense qu'elle sera là le 29. Mais ça, c'était intéressant. Ça permettait de visualiser vraiment dans tous les coins de la France comment tout ça se mettait en place, quoi.
C'est ça, c'est que du coup, le 29 janvier, 2026, jeudi prochain, on fait une réunion publique donc à la Bourse du Travail Château d'Eau, au métro République, de 19 à 21h, on le redira. Et on va présenter, donc ce dont tu parles, c'est une énorme cartographie qu'on a fait justement, parce que quand on a commencé à creuser cette question du SNU, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment la partie visible de l'iceberg. Et en fait, les dispositifs qui mettent en lien l'armée, enfin, ou le ministère des armées et des structures jeunesse, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit des structures plus, colo, éduc-pop, ou vraiment, enfin, et aussi des dispositifs d'insertion, en fait, voilà, c'est que finalement, le SNU, c'était une toute petite partie. Et tout le reste, on a mis le doigt sur tout le reste, quoi. Et en fait, c'est tout ce reste qui reste. C'est que là aussi, quand on dit on est un collectif à militarisation de la jeunesse, parce que déjà à l'époque du SNU, en fait, le SNU, c'est ça, c'est que ça marchait pas. C'était plus une espèce de posture, j'ai l'impression, un peu politique, de dire bon, on va pas lâcher là-dessus, mais ça n'avançait pas. Par contre, le reste avançait. Et c'est aussi ce reste-là qui est facile maintenant à activer parce que. Il y a des structures qui ont un partenariat avec l'armée depuis longtemps. Il y a des dispositifs qui existent depuis longtemps. Et voilà. Et en tout cas, c'est cette cartographie énorme qui est 9 panneaux A0, pardon. Mais en tout cas, c'est 9 panneaux qui font toute une espèce de cartographie des liens armée-jeunesse. Bon, il y a des choses à actualiser qu'on est en train d'actualiser. Et voilà, du coup, venez le 29 pour vous informer sur la question.
Alors là, on va rentrer un petit peu dans ce nouveau dispositif, enfin nouveau qui n'est pas nouveau, mais on va dire qui s'amplifie à l'orée des guerres et autres. Je pense que la guerre en Ukraine a été un peu un accélérateur, j'ai l'impression, de ça, puisque on le voit même dans les médias institutionnels, les galonnés ont quasiment installé leur camp à la télévision, quoi. Je pense toujours à cette image de De Gaulle qui avait été caricaturée ce soir dans votre écran. Vous allez avoir un militaire. Et là, quasiment, ils ont quasiment planté leur camp de base sur les plateaux de télé, quoi. C'est impressionnant aussi comment la militarisation s'intensifie au niveau médiatique. Je parle institutionnel déjà, ce qui est assez fort, quoi.
Ouais, alors moi, je suis pas la mieux placée parce que je n'ai pas la télé, ouais. Donc heureusement. Enfin, c'est aussi pour des raisons, on va dire, de santé mentale, pour éviter d'avoir des militaires chez moi à n'importe quelle heure. Mais effectivement, enfin, en tout cas, nous, on l'observe, dans des discours. Puis en fait, il y a une espèce de, banalisation de l'armée. En plus, il n'y a pas vraiment de parti, je dirais, même un peu de gauche qui... Ils vont quand même dans le sens de, même si c'est sur des trucs de souveraineté et tout, enfin, en fait, il y a quand même pas de remise en question de ce militarisme. Et jusqu'à il y a un ou deux ans, enfin, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un renouveau, et heureusement, de l'antimilitarisme autour de la mobilisation pour Gaza, pour la Palestine, après le 7 octobre 2023, où il y a quand même une génération qui, en se mobilisant... Et puis sur une question aussi économique, en fait, sur tout ce qui était la question de fabrication d'armes, de vente de composants pour des drones, de la surveillance et tout. Du coup, je pense qu'il y a quand même des connexions qui se sont faites. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait un peu un silence radio sur la question de l'antimilitarisme. Et c'est comme si c'était vraiment un truc du passé. Et donc voilà, le bon côté des choses, c'est que en fait, quand ça revient d'actualité, ça fait aussi que les gens se positionnent. Quand c'est un peu en sommeil, finalement, on n'en parle pas, c'est pas une question. Ou en tout cas, c'est des guerres qui sont loin, c'est les guerres des États-Unis. Et bon, quand bien même, des fois, c'est pas si loin que ça. Et je veux dire, la France peut être impliquée aussi. Mais en tout cas, il y avait quelque chose où, oui, les gens de la population se sentaient pas forcément concernés. Et là, il y a quand même un renouveau de l'antimilitarisme. Donc, c'est cool.
Effectivement, tu parlais d'histoire, mais on voit déjà qu'en 1961, il y a la création du SMA, donc anti-Guyane. Donc, c'est déjà... On sent déjà qu'il y a quelque chose qui se met en place. Le service militaire existait, mais on voit que c'est pas nouveau, quoi, ça, quand même, hein.
Ouais, ça, c'est... du coup, nous, à partir de la cartographie, donc, comme je l'ai dit, qui est énorme, on a fait un focus sur quelques dispositifs clés, et notamment des dispositifs d'insertion pro pour les jeunes. pour montrer un peu un focus sur un aspect de la cartographie. Donc on a fait un 4 pages qui est téléchargeable. Bon, on ne sait pas trop où pour l'instant. Pour l'instant, on l'envoie un peu par mail et c'est un peu du texto à texto. Mais on va le diffuser justement le 29 janvier. Et voilà, sur ce 4 pages, on a parlé justement de différents dispositifs. Attends, je vais le prendre de mon côté pour pouvoir les lire. Parce que du coup, on explique vite fait ce que c'est que la JDC, qui est la Journée Défense et Citoyenneté, qui a maintenant un nouveau format, nouvelle génération. On parle aussi des EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, le trinôme académique, la CAGE, qui veut dire Commission Armée Jeune, les classes défense et sécurité globale, ce dont on vient de parler, là, le SMA, donc le service militaire adapté qui existe donc depuis 61, qui est un dispositif pour les Outre-mer et pour un peu... à la fois pour faire de l'insertion pro et aussi un peu discipliner et avoir quand même un certain contrôle de la jeunesse dans les Outre-mer. Et le service militaire volontaire qui est différent du... Parce que là, on parle du service national volontaire qui est le projet là en cours, mais le service militaire volontaire, c'est autre chose qui existe depuis, je ne sais plus, parce qu'on a fait aussi une frise chronologique 2015.
Ouais.
Voilà. Et effectivement, en fait, je disais tout à l'heure que souvent, il y a des dispositifs d'embrigadement de la jeunesse qui apparaissent après des mouvements sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait la frise chronologique. C'est que souvent, on voit qu'est-ce qui se passe juste avant, sur 2009, qui est juste après le gros mouvement qu'il y a eu en Guadeloupe, sur la vie chère, avec le LKP, tout ça. Juste après, donc en 2009, il y a eu un doublement des capacités d'accueil du service militaire adapté donc dans les Outre-mer. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est comme la création du service militaire adapté, par exemple en Nouvelle-Calédonie, ça intervient, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais en tout cas, c'est entre 82 et 86, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment, il y a un mouvement social, il y a un conflit, bim, on fout des militaires, on fout les jeunes en caserne, Et ça, c'est vraiment sur la question des Outre-mer, où on voit qu'il y a aussi quand même vraiment un peu un traitement colonial. Mais voilà, bref, en tout cas, il y a plein de portes d'entrée, en fait, pour parler de ces dispositifs, pour les analyser. Ça peut être historique, ça peut être économique, ça peut être... Et voilà, du coup, on ne peut pas tout mettre. Et l'idée, c'est plutôt justement de se rencontrer pour en discuter, pour faire émerger, en fait, finalement, c'est quoi la politique qui est à l'œuvre derrière tous ces dispositifs, derrière les choix qui ont été faits, de les mettre en place quand, pour quelle tranche d'âge, les revirements aussi, parce que des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, où il n'y a plus trop de sous, finalement, on met des sous ailleurs. Voilà.
Comment s'est réalisé ce travail? Comment vous vous êtes concerté? Comment vous avez fait les recherches?
Alors, la cartographie, c'est une des membres du collectif qui a fait un énorme travail de veille de folie. Et qui, j'étais pas encore dans le collectif quand elle l'a créé, mais du coup, ça vaudrait le coup qu'elle raconte. Il faudrait qu'on l'interviewe pour qu'elle raconte un peu le processus de travail. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup de la veille. Médiatique et de la veille aussi un peu de voir un peu tout ce qui sort. C'est aussi des fois c'est de savoir dans telle école il se passe ça. Après, elle a fait aussi un gros travail de recherche pour voir, ça c'est quoi, mais ils sont en lien avec qui. Et puis en fait, ça c'est qu'on tire un petit fil et puis il y a toute la pelote qui vient, quoi.
Comment vous avez... donc, il y a la concertation. Sur quelle base vous êtes appuyé? Parce que, bien évidemment, tout à l'heure, je parlais de la guerre en Ukraine, mais il n'y a pas que cela aussi, parce que la guerre, elle est de plus en plus présente partout. Quel était votre point d'ancrage, votre point d'appui pour effectivement préparer tout cela?
Le point d'ancrage, c'était vraiment je pense la porte d'entrée, c'est quand même un peu l'école. Et alors, et dans le collectif, il y a plusieurs personnes qui sont profs, pas tout le monde, hein, qui sont professeurs des écoles ou de plus grands, quoi, de élémentaires. Non, c'est encore professeur des écoles. Bon, moi, je suis pas prof des écoles ni prof de rien, donc je sais pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs gens qui travaillent dans l'éducation nationale. Il y avait des personnes qui sont syndiquées aussi, donc il y avait des problématiques qui émergeaient, des collègues d'autres académies par exemple qui au niveau syndical disaient bah nous en fait dans notre classe il y a la volonté, enfin dans notre école ils veulent mettre en place des classes de défense et de sécurité globale, donc en gros les classes de défense et de sécurité globale c'est un projet qui lie une classe à une ou deux unités militaires, ça peut être des classes de collège ou de lycée, et donc c'est des unités militaires locales et c'est pendant un an et c'est pour mettre en place des projets. Alors des fois ça peut être aussi, enfin en fait des fois c'est aussi pour avoir des sous pour oui pour mettre en place des projets de classe, mais où il va y avoir un lien avec l'armée. C'est pas forcément un lien hyper fort, hyper évident, mais voilà, il y a éventuellement les militaires qui vont venir intervenir une fois dans la classe pour dire c'est quoi leur boulot, c'est quoi qu'ils font. Et puis il va y avoir la participation à une cérémonie du 11 novembre, un monument aux morts, enfin quelque chose où on va instiller un peu un sentiment militaire, patriotique, mémoire. Alors, enfin, la mémoire, c'est aussi un enjeu parce qu'il y a vraiment une espèce de choix de faire des choix mémoriels qui sont assez ciblés.
Un exemple ?
Oui, mais c'est ça, c'est d'aller sur des monuments aux morts. Et, mais en fait, bon, y a des travaux qui ont été faits, moi, que j'ai commencé un peu à éplucher. Après, c'est des énormes trucs, mais il y a... Il va y avoir des trucs de suivre le parcours d'un jeune soldat au moment de la guerre de 14. Et il y a quelque chose, enfin c'est un peu pernicieux parce que en fait il y a à la fois le côté de dire ah oui quand même la guerre antimilitariste qui ont pu être faites sur la boucherie de 14-18.
Macron notamment.
Et ouais, mais du coup c'est comme pour le prendre et pour se dire bon mais quand même ils se sont sacrifiés pour la patrie et c'est quand même exalter un sentiment de martyr, de héros. Enfin et du coup il y a quelque chose qui est assez pernicieux et nous aussi ce qu'on observe c'est que les choix qui sont faits pour exalter justement ce truc du militarisme, y compris en acceptant de voir les côtés un peu durs, la mort, tout ça, la guerre, c'est pas facile. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut être prêt. Enfin, c'était le discours là du gars des armées, la Mandon,
oui.
Je sais plus du.
Le sacrifice des enfants.
Voilà, il faut sacrifier. Et en tout cas, il y a cette espèce de truc de finalement, c'est bien de se sacrifier parce que c'est pour la patrie, parce que c'est pour sauver, parce que c'est. Il y a quelque chose où. Donc déjà, en fait, c'est déjà s'opposer à ce discours que non, en fait, le sacrifice, en fait, c'est toujours les mêmes qui se sacrifient déjà,
bien sûr.
Ou qu'on sacrifie.
Les plus pauvres. Hein,
les plus pauvres, les colonisés, les personnes des Outre-mer. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas forcément au front. Mais ce que je veux dire, c'est sacrifier aussi une économie. Pour la tourner vers la guerre, c'est tourner l'économie vers la guerre, ça veut dire plus d'argent pour justement la défense, la guerre, pour les armes, et moins pour la santé, moins pour l'école justement. Enfin, et là c'est ça aussi qui jouait sur qui était aussi un levier de mobilisation, c'est qu'en fait tous ces dispositifs nous qu'on voit, c'est des dispositifs qui sont assez grassement financés. Là où, en fait, les budgets de l'école, ils se réduisent d'année en année, que le nombre de classes où il n'y a pas de profs, il n'y a pas de remplaçants, c'est la merde, les établissements tombent en ruine. Et du coup, il y avait ce côté de... Et à l'époque du SNU, c'était ça. C'était, par exemple, en fin de troisième ou de seconde, il y avait plein d'élèves qui devaient partir en stage... et qu'il n'y avait pas de stage parce qu'en fait, les profs n'avaient pas eu le temps de se poser pour les aider à trouver un stage. Et donc, le SNU, c'était aussi un peu la réponse. C'était bon, vous n'avez pas de stage, vous allez faire une semaine de séjour SNU. Et du coup, c'est vraiment le pansement sur une jambe de bois. Mais en fait, c'est un espèce de pansement pourri pour dire non, tiens, t'as mis une nouvelle jambe de bois pour que t'ailles combattre à la guerre. Quoi. Enfin, c'est un peu... C'est un truc assez... assez pernicieux quoi.
Sur les chiffres, très rapidement, c'est quand même c'est quand même 36,5 milliards d'économies supplémentaires prévues sur le budget en 2026 qui iront se rajouter dans les crédits dédiés à la défense à 57,2 milliards d'euros quand même, ce qui n'est pas rien.
Ouais, alors moi, c'est quand on rajoute trop de zéros, personnellement, oui. J'ai du mal à me représenter, mais ce qui est sûr, c'est que, sans forcément qu'on se représente les chiffres, en fait, quand on travaille dans l'éducation nationale ou quand on a des enfants scolarisés, en fait, on voit réellement le manque d'argent, le manque de moyens, le manque de personnel. Le manque de moyens aussi pour faire des projets, pour faire des sorties, pour faire des voyages scolaires, pour faire des il y a de plus en plus les parents qui doivent mettre la main à la poche pour tout et n'importe quoi, les trucs un peu le fond on va dire que va avoir l'école pour payer des choses pour les enfants qui ont moins de sous, même les enfants, même d'aller à la cantine pour certains c'est... on en est là sur la question pareil des jeunes qui sont par exemple en études. C'est ça, c'est que tous ces dispositifs là qui sont en train de dire vous pouvez faire un service volontaire d'un an ou de 10 mois et on va vous payer, parce que par exemple le service militaire volontaire qui est un autre dispositif qui est pour les Français résidant dans l'Hexagone de 18, enfin les Français et les Françaises de 18 à 25 ans, donc ça a une durée de 8 à 12 mois et ça permet donc de faire un parcours d'insertion pro. Sur les métiers dits en tension. Donc, c'est-à-dire, c'est de aussi favoriser la formation de réservistes, en gros, qui vont être à la fois, qui peuvent être faire des métiers dans la sécurité, dans des choses plutôt soudures, métallurgie. Ça peut être aussi la santé, ça peut être aussi la restauration. Les volontaires donc entre 18 et 25, ils sont nourris, logés et en fonction du niveau de diplôme, ils peuvent recevoir un peu d'argent de entre 344 et 740 euros par mois. Ça, c'est suivant le niveau de diplôme. Mais du coup, c'est ça, c'est quand il n'y a pas de perspective, quand en fait on est débouté de Parcoursup, on n'a pas eu ses vœux, qu'en fait de toute façon, comment on va faire pour pouvoir vivre, dans la ville qu'on a choisie pour aller faire ses études, si c'est Paris en plus, ou si c'est une grande ville où tout est méga cher, où on fait la queue à l'aide alimentaire. Là, il y a une forme de sécurité. En fait, c'est ça, c'est qu'on est nourri, logé et payé. Oui. Alors même si c'est maigre, c'est mieux que de crever la dalle dans une chambre d'étudiants quand on a la chance d'en avoir. Enfin, du coup, c'est ça, c'est que c'est moins d'argent pour les jeunes et en tout cas les pousser vraiment très très fort et par la précarité vers l'armée comme possibilité quoi.
Là, on avait presque l'impression que l'État faisait un cadeau là très récemment aux étudiants pour manger à 1 euro. Il y a tout ce truc-là, on a l'impression que c'est presque la charité qu'on donne à cette jeunesse, quoi. C'est ça quand même qui est incroyable. Puis je repense à l'été dernier, en 2025, l'été dernier, où il y a une canicule pas possible, où les classes étaient très mal isolées, ça crevait de chaud. Et là, d'ailleurs, certaines universités, cet hiver, avec le froid qu'il y a eu, et du coup, il faisait froid. Donc, du coup, il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de financement pour là. Mais effectivement, on retrouve des financements pour aller envoyer les gens se faire trucider. C'est ça.
Alors, je voulais dire, c'est que c'est se faire trucider, mais c'est pas que. Parce qu'en fait, la militarisation, en fait, on a vraiment beaucoup l'idée d'aller faire la guerre, aller soutenir l'effort de guerre à l'extérieur des frontières. Mais en fait, la militarisation, c'est aussi des choix politiques qui vont se jouer et qui vont se traduire dans un pays. Parce qu'en fait, il y a des pays qui sont militarisés et qui ne sont pas en guerre, en fait.
Oui.
Enfin, ils n'ont pas de guerre à l'extérieur. Et là, à l'heure actuelle, la France n'est pas en guerre spécifiquement. Et la militarisation,
c'est aussi... Ou alors
peut-être
indirectement dans ses colonies.
Mais alors, c'est ça. C'est que, en fait, c'est ça. C'est que la militarisation, c'est plutôt instiller une idéologie d'ordre. Et qu'on va instiller dès le plus jeune âge. Enfin, pour que ça marche aussi la militarisation, faut que ça rentre, faut que ça soit normal et normalisé dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un impact. C'est pas seulement pour ceux qui vont aller sur le front. En fait, c'est aussi de organiser la société, donc économiquement autour de cette économie de guerre, idéologiquement, de construire aussi des représentations du féminin, du masculin, vraiment avec des trucs de genre forts, avec l'homme courageux qui va se sacrifier pendant que La femme se sacrifie, elle, dans, en seconde ligne, finalement. Et c'est aussi des choix pour dire, bon, bah, en fait, si vous faites grève, enfin, s'il y avait un conflit ou un truc comme ça, c'est si vous faites grève ou si vous participez pas à l'effort de guerre, en fait, vous êtes des traîtres à la nation. En fait, c'est instiller des logiques. Et les guerres, en fait, quand il n'y a pas de guerre à l'extérieur, quand il n'y a pas de conflit armé à l'extérieur, en fait, les guerres, elles servent surtout à faire la guerre à la population en interne. Ou effectivement dans les outre-mer, dans les colonies, ou et ça, c'est aussi la guerre aux frontières, parce qu'à l'heure actuelle aussi, les endroits qui sont très fortement militarisés en Europe, c'est les frontières. Enfin, pas qu'en Europe, mais en tout cas pour parler de l'Europe forteresse. Donc ce que je veux dire, c'est que les militaires, ils servent à quoi ? Les militaires, ils servent à empêcher des personnes de circuler librement pour pouvoir des fois se mettre à l'abri. D'ailleurs, des fois, deux conflits armés qui ont pu être nourris ou soutenus par des pays européens. Et donc, je veux dire, il y a voilà, toute une logique qui va se jouer en interne. Et aussi, la militarisation, c'est des choses qui se jouent bah, clairement aussi sur la répression des mouvements sociaux. Parce que bah, y a des armes militaires qui sont utilisées pour réprimer. Je veux dire, les gendarmes, en fait, c'est des militaires, hein, par ailleurs, les gendarmes mobiles.
Tout à fait. On l'oublie de temps en temps.
Et en tout cas, en plus, c'était, pour le coup, c'est quelque chose qui était... bah, si on repense justement à l'antimilitarisme du siècle dernier, où, c'est qu'il y avait aussi un antimilitarisme qui avait le souvenir... que les militaires, en fait, c'était eux qui étaient appelés pour aller tirer sur les manifestants quand il y avait des mouvements sociaux. Et il y a eu des massacres et dans des mouvements sociaux, des gens qui étaient tués par des militaires parce que c'est l'armée qu'on appelait
pour mater un peu.
Pour mater les révoltes. Et que ce soit en France ou dans d'autres pays, en fait, il y a, je veux dire, sur les mouvements ouvriers au moment, enfin, au 19-20e siècle, il y a eu vraiment des cas emblématiques dans pas mal de pays industrialisés de mouvements sociaux qui étaient réprimés par l'armée. Donc c'est aussi ça l'armée. Et je veux dire, même si ça a pris des nouvelles formes, je veux dire, pareil, tout ce qui est drone. Et en fait, il y a tout un tas de technologies militaires qui sont utilisées à l'heure actuelle pour la surveillance de la population. Donc en fait, tout ce qui peut être mis en place pour soi-disant se défendre... aller soutenir la démocratie dans des conflits externes, bah, en fait, elle se joue principalement en interne.
Eh bien, pause musicale.
Il est parti mourir. La tête dans le vent, comment par un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi, pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant, mort aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec une autre armure. Je l'ai fait traverser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. À donner la vie que de la prendre, une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant, et c'était pas la fête tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille. Il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Déshonneur à la noire. Et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes et ce jusqu'à 13h30. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Irène et nous parlons du service national volontaire. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, on va continuer à dérouler un petit peu tout cela. Et puis, vous avez déjà tourné, on peut dire, hein, comme ça, sur... Avec le collectif. J'aimerais que tu me parles un petit peu où vous avez été, comment vous avez été accueillis sur les tournées que vous avez faites.
Ouais, et juste, je voulais présenter la musique.
Tout à fait.
C'était La femme du soldat inconnu d'un groupe qui s'appelle L'Effet Mousté, qui n'existe plus, parce qu'une des deux chanteuses est décédée récemment, mais c'est un groupe assez actif dans les années 90-2000 de Toulouse. Et donc, cette chanson, elle a été écrite par Majid Cherfi, donc de Zebda. Et qui parle de justement que la guerre, il y a les gens qui vont à la guerre et il y a aussi tout ce qui se passe. C'est ce qu'on disait justement avant la pause, c'est que finalement, ça a aussi un impact sur ceux qui ne sont pas à la guerre. Mais on va dire l'économie de guerre, la militarisation, elle ne se joue pas que justement sur les champs de bataille, mais aussi sur des logiques d'organisation de la société. Dans l'espace, dans la société, quoi, qui est non, dans la société civile, on va dire.
Bien sûr.
Et voilà, et du coup, notre collectif, en fait, un peu, on se déplace quand on nous appelle et on essaye de transporter cette cartographie. C'est aussi un peu ce déplace qui est dispo. Donc, moi, je n'ai pas fait beaucoup de présentations de la carto. J'en ai fait juste une. C'était en avril dernier. Il y avait un événement organisé à la Flèche d'Or par Guerre à la Guerre avec une table ronde avec plusieurs intervenantes et intervenants de un collectif d'étudiants et étudiantes contre le génocide à Gaza et qui se mobilisaient contre la complicité de la France. La complicité militaire aussi, de vendre des armes, de vendre des composants, de servir, tout ce qui peut être fait en termes de soutien militaire et logistique. Il y avait quelqu'un de la CGT, il y avait même des gens de la LFI, enfin de la France Insoumise. Il y avait des personnes de Guerre à la Guerre. Enfin, en tout cas, c'est une coalition. Et nous, on présentait la cartographie. Ça nous est arrivé d'intervenir aussi sur des événements organisés par la Libre Pensée. Tout ce qui va être événement autour de la question, l'actualité justement des logiques militaristes, des mobilisations qu'on peut faire, on intervient.
Est-ce qu'il pourrait être possible, par exemple, d'intervenir dans des cités, dans des centres culturels, par exemple ? Parce que
oui.
Là, on est quand même, puis parler de cette intervention, on est comme des gens qui sont convaincus de ça, même s'il peut y avoir quelques nuances. Mais globalement, parce que c'est la jeunesse qui va être concernée quand même en priorité, on va dire en grande priorité.
Oui.
Et donc, Est-ce qu'il y aurait cette possibilité-là aussi de présenter
ça?
Ah
bah carrément, carrément. Enfin, ce qu'il y a, c'est ce que je dis, c'est que nous, on se déplace là où on nous appelle. Et effectivement, bon, pour nous appeler, il faut nous connaître aussi.
Voilà.
Mais c'est un peu tout ce travail militant. Nous, c'est aussi un peu l'objectif de faire la réunion publique du 29
janvier.
Du 29 janvier, c'est de pouvoir justement... Enfin, en fait, il y a des gens qui ne nous connaissent pas... Mais qui sont assez pointus, par exemple, qui font partie de collectifs, qui vont agir sur des questions plus spécifiques. Ça peut être sur justement la militarisation de la police. Ça peut être. Enfin, nous, on a essayé d'inviter un peu large. Bon, on n'a pas encore invité tout le monde parce qu'il faut qu'on continue d'envoyer des mails. Mais en tout cas, aussi justement, on a pu contacter. Enfin, on souhaite contacter. On aimerait bien que toutes ces structures viennent, mais des organisations qui vont être plus justement sur des questions de jeunesse. Enfin, et en fait aussi, nous, c'est de se dire, on est un minuscule collectif, et c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se faire connaître. Aussi, on n'a pas creusé tout. Je pense sur la question de l'insertion professionnelle des personnes qui bossent dans les missions locales, dans les, j'allais dire, les pôles emploi, dans les France Travail, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent avoir pas mal d'infos. Et donc, de pouvoir se rencontrer, ça peut être l'occasion de faire des nouveaux ponts et de pouvoir présenter la cartographie dans des nouveaux lieux. Et je sais pas si Cassandre a déjà appelé. Non, elle a pas appelé. Cassandre appelle. Je t'ai envoyé le numéro par texto.
Tu parlais de France Travail justement ce matin. Il y a Monsieur Farandou, donc le PDG de France Travail, le ministre du Travail, donc qui intervenait donc pour une création d'une force spéciale au sein de France Travail pour l'industrie, pour que l'industrie de la défense puisse se développer. Donc il disait que ce serait, il y aura un département dédié, donc avec un financement qui est prévu à 6,7 milliards d'euros supplémentaires pour la stratégie de la défense nationale, avec une équipe dédiée qui irait un peu puiser dans le vivier des demandeurs d'emploi. Donc on est un peu dans cette question-là. Alors on a Cassandre au téléphone. Est-ce que tu nous entends ?
J'entends très bien, oui, bonjour. Bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde.
Bonjour à toi.
Salut Cassandre.
Salut Irène.
Attends, bah peut-être Joël, si tu veux. Attends, moi, peut-être je vais répondre à ta question, et si tu veux compléter ce que tu disais sur le ministre du Travail. Bah, de toute façon, oui, il y a cette logique. Nous, c'est un peu ça qu'on fait émerger donc, dans le 4 pages qu'on a extrait de la cartographie. C'est ça, c'est parler des dispositifs d'insertion. Et par exemple, il y a un dispositif, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, EPID. Qui sont, pour les 17-25 ans, qui sont sans diplôme. Et c'est issu d'un partenariat, en fait, justement, entre le ministère du Travail, les politiques de la ville et la défense. Et c'est l'idée de pouvoir former et faire de l'insertion professionnelle donc pour des jeunes de 17-25 ans sans diplôme, avec une allocation de 500 euros par mois. Et ça se fait dans des centres militaires, en fait, enfin, quasi-militaires. Il y en a 20 en France, et ça concerne... en tout cas, l'objectif, c'est d'insérer 4000 jeunes via de la formation professionnelle, et tout en ayant une discipline, une pédagogie militaire. Donc, c'est, en fait, on va essayer de faire la synthèse entre les deux. Et ça c'est, voilà, tout ça, c'est des choses, nous, qu'on a déjà vues, en fait. Et quand on voit ce genre de nouvelles, nous, on dit, ah oui, en fait, ça, on l'avait vu, justement, en tirant les fils qui nous ont menés à faire cette cartographie. Je sais pas, Cassandre, si tu veux compléter.
Tu veux peut-être ajouter quelque chose, ouais, Cassandre ?
Eh bien, moi, je suis enseignante dans le second degré, et j'ai suivi la première partie de l'émission. Alors, je sais pas si ça fait revenir en arrière, si c'est gênant, si je complète des petites choses auxquelles j'ai pensé pendant que Irène parlait. Alors, sur la carto, pour expliquer un peu la conception, c'est une camarade principalement qui avait repéré 150 dispositifs avec des choses un peu flottantes qui apparaissent, qui durent pas et qu'on oublie, et puis d'autres qui restent depuis longtemps. Et donc, on avait listé, on avait fait un tableau extrêmement complet, on avait rempli des petits encarts, et donc on a réparti tous ces 150 dispositifs sur cette cartographie, dispositifs, structures, et on a fait des liens entre eux. C'est très artisanal, on a lié au stylo, et ce qui est apparu, c'est un écheveau, un, 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 qu'on peut pas défaire, quoi. Ça veut dire que quand on est enseignant, notamment comme moi, on peut mettre à tout moment le doigt sur un dispositif ou sur une structure dont on ne sait pas qu'elle a des implications militaires à plus ou moins haut niveau. Et on avait mis le SNU sur le côté de la carte pour dire qu'il était, comme l'a dit Irène tout à l'heure, qu'il était une sorte de tête de gondole, une tête d'affiche, mais qu'il était voué à disparaître éventuellement, que ça n'avait pas d'importance s'il disparaissait. Elle a évoqué à un moment les classes défense et sécurité globale. Je voulais préciser que c'est un dispositif qui est depuis 2005 dans le secondaire, collège-lycée, et il y a une expansion énorme. Alors pareil, j'ai pas les chiffres en tête, mais tous les ans ça progresse. Et ça doit être présenté au conseil d'administration, normalement. Et ce qui se passe, enfin, je me souviens d'une parent d'élève de Dijon qui expliquait que dans l'établissement de son enfant, ben, il y avait une adhésion, quoi. Ils étaient une minorité à s'opposer. Alors, soit les enseignants et les parents adhèrent, trouvent que c'est très bien parce que ça trouve des financements. Alors, c'est un argument massif, hein. Il n'y a plus de financement, moi, j'ai plus d'aide pour les voyages scolaires. Par contre, il y a des financements pour faire la sortie orientée militaire. Donc ça, c'est l'argument. Il y a une adhésion aussi au militarisme. Hein. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne se rendent pas compte, qui n'ont pas creusé la chose. Donc, qui pensent que... Enfin, voilà, qui voient l'aspect formateur civique, une sorte de vernis civique qui leur va. Mais voilà, sans se rendre compte que c'est une militarisation avancée. Et une nouveauté cette année, là, on avait eu un article de Sud-Ouest en novembre de 2025. C'était une classe élémentaire concernée par une classe défense. Et l'article s'en réjouissait presque. Des élèves d'élémentaire étaient liés à Libourne, c'est près de Bordeaux, dans la Gironde, étaient liés à une unité militaire marine. Et l'article était presque complaisant à se réjouir que les enfants découvrent des métiers et puissent aller à la mer. Voilà, l'objectif, c'était de faire la journée à la mer dans le sous-marin. Je voulais préciser aussi un petit point sur le mémoriel. Qu'a évoqué Irène, il y a beaucoup de concours qui sont proposés au sein de l'éducation nationale, pour les élémentaires notamment, pour les collégiens aussi, c'est-à-dire bulles de mémoire, il faut faire des petites bandes dessinées, les petits artistes de la mémoire, enfin tous ces concours vont avoir un sujet éventuellement militaire. Et sur le mémorial, il y a eu un gros truc il y a 2 ans, c'était la distribution à... C'était, il me semble, que à Paris, un livret qui s'intitulait « Ma première cérémonie militaire ». Et c'est une petite bande dessinée où une maman amène son enfant à un 11 novembre. Et voilà, il y a toute une partie sur les types de chapeaux, de bérets, de képis. Bon, une connaissance primordiale, évidemment. Le Canard Enchaîné avait sorti que dans les financeurs de ce petit livret, il y avait un certain Pierre-Édouard Sterrin. Bon... pas anodin quand même, hein, parce que c'est un des financeurs de l'extrême droite actuelle. Et voilà, donc ce livret avait circulé, distribué éventuellement par les enseignants eux-mêmes, qui ne voyaient pas le problème. Les enseignants ont refusé de le distribuer, mais globalement, il avait circulé. Voilà, donc c'est pour dire aussi ce manque de questionnement parfois de mes collègues. Je vois, il y a un forum de l'orientation qui s'organise dans mon lycée, l'armée est présente, j'ai essayé de discuter avec mes collègues, et ils me disent « non, mais c'est le premier employeur de France, on ne peut pas priver les élèves de cette connaissance-là ». Donc voilà, avec tout le respect que j'ai pour les collègues que j'apprécie par ailleurs, qui comprennent mon point de vue, mais qui vont pas plus loin que il faut fournir l'information d'orientation aux élèves. Voilà pour les remarques auxquelles j'avais pensé.
Pour tu n'avais plus les chiffres en tête sur les classes défense et sécurité. Et du coup, c'est apparu en 2005. Et comme les EPID dont j'ai parlé juste avant sur l'insertion pro, donc quand on disait les dispositifs d'insertion de la jeunesse qui arrivent à des moments un peu opportuns quand il y a des mouvements sociaux, donc là, les révoltes des jeunes des quartiers populaires en 2005. Et donc, on a établissement d'insertion pro et classe défense et sécurité qui sont créées. Et donc, leur nombre, il a été en constante augmentation depuis 2017 parce qu'en 2017, il y avait environ 200 classes défense et sécurité globale dans toute la France. Et au premier trimestre 2025, on était déjà à 958. Et là, en moins d'un an, on est passé à 1200. et on est arrivé à 1200 classes défense et sécurité globale en un an. Là, on est passé de 900 à 1200 et ça peut continuer. Je pense qu'on avait peut-être des chiffres plus récents, je ne sais plus. Bon, là, on n'est qu'en janvier. mais ouais, il y a vraiment un... Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que le coup d'accélérateur, il se mesure aussi en quels moyens sont mis, quels dispositifs sont mis en place. Et voilà.
Et moi, j'avais une question pour toi, Cassandre. Quel est le positionnement des syndicats enseignants dans tout ça?
J'ai l'impression qu'il y a quand même un désaccord de fond, comme on peut le dire, mais... une difficulté de réactivité, quoi. Ça passe. C'est malgré tout un sujet secondaire vis-à-vis des conditions de travail, par exemple. Dans le 94, donc, que je connais mieux, il y a des communiqués réguliers de l'intersyndicale. Il y a des choses en réaction à des événements, notamment dans le 94, il y a eu en novembre une journée organisée par le Trinôme académique qui était « Vie ma vie de détenu », c'est un lycée de Fontenay-sous-Bois, où voilà, il y avait une sorte de jeu de rôle avec des surveillants pénitentiaires et des élèves, il y a eu des violences, et voilà, l'argent a été mis là-dessus. Donc c'est la CGT présente localement qui avait été contactée, et l'intersyndicale 94 a produit un communiqué. Mais on est tellement, je suis à Sud d'éducation, on est tellement sous l'eau par ailleurs, enfin on a plein de choses à mener que ça. Ou alors il y a une conscience trop faible encore que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment lutter urgemment, quoi. Donc je suis un peu mitigée sur tout mon enthousiasme, mais mitigée sur la réactivité des syndicales sur la question. Hein.
Ouais, je crois que c'est important de le rappeler parce que il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont concernés. C'est à un moment, ça va être une prise de conscience parce que ce qu'on disait depuis le début de l'émission, c'est que l'État a décidé de mettre le paquet là-dessus. Et c'est vrai que je pense que dans la population, il va falloir faire un travail pour expliquer aussi ce qui est en train de se passer. Hein. Je crois que c'est important. Et que ça soit dans les écoles et tout ça, il faut pouvoir parce que la propagande en face, elle est très forte, quoi. C'est comment on arrive à inverser la propagande aussi, hein.
Ouais. Bah, elle est surtout, elle a de l'argent, la propagande, et elle est bien, pour expliquer ce qu'est le trinôme académique dont vient de parler de Cassandre, c'est en fait c'est un dispositif qui est présent dans chaque académie de l'éducation nationale et qui est composé à la fois du recteur ou de la rectrice, d'une représentante ou un représentant de l'autorité militaire territoriale et un auditeur, une auditrice de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Donc, il y a l'éducation nationale et donc des personnes qui sont au niveau de l'institution, quoi, qui sont un peu clés pour pouvoir réfléchir à mettre en place des projets en fait, qui articulent défense et éducation. Et voilà, du coup, c'est un peu des gros moyens quand nous, on est des petits collectifs essoufflés par la casse des services publics, les mobilisations où on se fait... éclaté au sens propre comme au sens figuré, quoi.
Mais ce travail est important en même temps, il est super important.
Et puis c'est pour ça que... Non, mais puis en plus, là, il y a vraiment ce... Je pense que là, les gens commencent à se dire « Ah oui, c'est vrai, la guerre... » Enfin, là, je pense que on va dire les déclarations un peu cavalières sur « Il va falloir perdre des enfants et se sacrifier pour la patrie. » Bon, il y a quelques personnes qui se sont dit « Ah oui, quand même, c'est un peu pourri. » Mais il y a aussi, je pense, pour vraiment réexpliquer à quel point le militarisme, c'est une composante, voire la perfusion du capitalisme aussi, quoi. Mmh. Et c'est ce qui permet au capitalisme de continuer et de continuer de vivre. Et que c'est vraiment le militarisme, ça concerne toute la société, c'est pas juste aller au front. Enfin, vraiment, c'est de se sortir ce truc de la tête, c'est que c'est vraiment des choix économiques, culturels, sociaux qui sont faits sur tous les aspects de la société. Là, j'en discutais avec une camarade de Toulouse qui est aussi... Il y a des collectifs antimilitaristes qui refleurissent partout, c'est super, et qui disait que dans son collectif, il y avait une commission de travail sur les liens armée-santé. et qu'il y a des choix justement qui sont faits en santé et avec des choses qui sont même beaucoup plus avancées en termes de protocoles de crise, qui sont beaucoup plus avancées en Allemagne ou en Angleterre, de déclencher en fait des protocoles de qu'est-ce qui se passe en cas de crise et comment on va penser un tri inversé des patients dans les hôpitaux, comment on accueille des soldats qui sont sur des lignes de front à l'extérieur du pays concerné, mais comment on gère justement l'accueil de soldats. Et donc, enfin, je veux dire, c'est quand on voit comment ça a été géré la crise du Covid, je veux dire, c'est que là... voilà, c'est de se poser la question, comment ça va se passer quand à un moment on va faire passer des soldats avant la population ? Qui est-ce qu'on va trier dans la population ? Dans un contexte où la santé, elle est aussi aux abois, enfin, comme l'éducation nationale. Enfin, du coup, voilà, c'est un vrai projet de société, c'est pas juste des gens qui vont aller se faire trouer la peau dans des tranchées à l'autre bout du monde. Il y a ça aussi, et il faut pas l'oublier, mais en fait, c'est vraiment des logiques qui se jouent dans la vie civile.
Alors, on arrive en fin d'émission, donc il nous reste 5 minutes. On va parler justement de jeudi prochain, hein, ce qui va se passer le 29. Donc voilà, écoute, je te laisse faire.
Du coup, l'idée, c'est vraiment de présenter la cartographie, de présenter ce 4 pages dont j'ai déjà un peu parlé à l'antenne. Et voilà, ça sera l'occasion vraiment de poser des questions, de peut-être aussi chaque personne qui sera plus ou moins concernée, des personnes qui ont des enfants qui sont scolarisés, d'autres personnes... Enfin, voilà, que ça puisse être un temps d'échange autour de la cartographie et de tous ces dispositifs. Nous, on a, comme je disais aussi, essayé de contacter des associations qui sont déjà actives sur d'autres questions, qui sont plus spécialistes des questions. Nous, c'est vrai qu'on va plus être spécialistes des liens armée-jeunesse, mais je ne sais pas, des assos ou des collectifs qui sont plus actifs sur, je ne sais pas, la vente d'armes et qui ont été plus actifs pour s'opposer aux logiques de l'industrie militaire, tout ça. Enfin, voilà, que ça puisse être un espace aussi de convergence pour que, à partir de cette cartographie, on en voit aussi tous les points qu'on n'a pas plus creusés, qu'on n'a pas eu la force encore de trop creuser, de voir si ça peut faire émerger des envies de lutte sur tel ou tel sujet. Voilà, et de continuer de le faire connaître, de continuer de se déplacer. Nous, voilà, on s'est déjà déplacé, je ne sais plus si c'était à Saint-Étienne. Oui, je pense à Saint-Étienne, il me semble que c'est Cassandre qui a été. On a été à Nantes. Enfin, quand on parlait des tournées qu'on faisait, on va aller probablement à Marseille là, au mois de février. Du coup, vraiment, nous, l'idée, c'est de rencontrer d'autres collectifs antimilitaristes et de faire circuler en fait un maximum les outils qu'on a travaillé la veille qu'on fait, qu'on puisse découvrir aussi les outils des autres pour s'organiser et lutter contre tout ça.
Alors on vous donne l'adresse où ça va se passer, quand même, c'est important.
À la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, donc métro République. Et
jeudi 29 janvier 2026.
C'est ça, de 19h à 21h, précise.
Et c'est la salle Eugène Potier.
Ouais.
Voilà. Irène, je te remercie.
Eh bien, merci beaucoup. Je remercie l'actu des luttes.
Je remercie aussi Cassandre pour son intervention. Et merci à Mathéo et Mustapha à la technique.
Merci.
Bonne journée.
Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.